journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'épidémie dont on ne parle plus et pourtant le sida est toujours là. Aujourd'hui il se soigne, encore faut-il savoir qu'on est infecté. Or le Covid a mis un coup d'arrêt au dépistage. Explication dans un instant et reportage à Nouakchott en Mauritanie. Pas loin de 40 000 cas de Covid hier en France, en pleine cinquième vague de Delta et sans présager de l'arrivée d'Omicron. Les centres de vaccination poussent les murs pour assumer les rendez-vous de rappel de vaccins. Côté économie, la France est-elle durablement sortie de la crise ou encore fragile? C'est un débat que vous nous proposez tout à l'heure, Nicolas.
Oui, avec deux économistes, Daniel Cohen, Nicolas Bavrez, à notre micro dans 20 minutes avec Léa Salamé. Intervenez 01 45 24 7000, l'application France Inter et les réseaux sociaux.
Une première interview tendue pour le candidat Zemmour hier soir sur TF1. Il n'a pas du tout apprécié l'exercice, on va l'entendre. Nous serons aussi à Washington où la Cour suprême des États-Unis se penche sur le droit à l'avortement, à Flins dans l'usine Renault qui répare désormais les voitures d'occasion. Et puis comme un avant-goût de Noël, on ouvrira la première fenêtre du calendrier de l'Avent du service culture de France Inter. Une idée de cadeau chaque matin, il y en aura pour tous les goûts.
France Inter.
C'était la grande pandémie des années 80 et 90 pour laquelle aucun vaccin n'a jamais été trouvé. Le sida a fait 38 millions de morts dans le monde depuis son apparition. Les traitements ont fait des progrès fulgurants. C'est une maladie qui se soigne aujourd'hui mais qui n'est toujours pas assez dépistée, notamment en France. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, le constat est le suivant. Véronique Julia, les dépistages ont brutalement chuté en 2020 à cause du Covid et beaucoup trop de malades s'ignorent.
173 000 patients VIH en France, mais 14% ne le savent pas. Des séropositifs qui s'ignorent faute de dépistage, 25% des patients se découvrent malades à un stade avancé. En 2020, ce sont 650 000 tests qui n'ont pas été réalisés à cause du Covid. Quelles conséquences à long terme? Les autorités sanitaires sont inquiètes. L'arrêt brutal de la demande de tests en 2020 ne se balaye pas d'un revers de la main, explique le ministère de la Santé. Il va falloir remonter la pente, ce sera lent, mais tellement essentiel que plusieurs mesures ont déjà été prises. L'opération Labo sans ordo, expérimentée à Paris notamment, va être élargie. Permettra d'aller faire un test VIH en laboratoire sur simple demande, gratuitement et sans rendez-vous. Autre mesure, la généralisation depuis le 1er juin de la primo-prescription de la PrEP par les médecins généralistes. La PrEP, c'est un traitement préventif qui permet d'éviter l'infection si on risque d'y être exposé. Commercialisé depuis 2016, il est d'autant plus précieux qu'il permet un suivi, puisque les patients qui en prennent doivent être dépistés très régulièrement. Le confinement a cassé le déploiement de ce moyen de prévention. Ça reprend, mais plus tout à fait au même rythme qu'avant la crise.
Voilà pour la situation en France et pardon pour cette petite interruption technique. Situation dont rêveraient sans doute les habitants des pays pauvres et dont la culture n'incite pas à révéler sa sexualité. Ainsi en Mauritanie, on estime que presque un homosexuel sur quatre est infecté par le VIH. Mais comment se faire dépister quand son orientation sexuelle tombe sous le coup de la loi? C'est un reportage signé Théa Olivier dans la capitale mauritanienne.
Dans un quartier populaire de Nouakchott, 10 homosexuels cohabitent. Tous ont été rejetés par leur famille. Sharihan, 25 ans, a déjà été victime d'insultes et de violences.
J'ai tout le temps peur, même pour la plus simple des maladies, pour un bouton ou une infection. Je ne peux pas aller à l'hôpital et je vais me cacher, ce qui peut m'amener des complications, voire risquer de mourir.
L'homosexualité est punie de la peine de mort en Mauritanie. Même si la loi n'est pas appliquée, ces jeunes homosexuels préfèrent se faire dépister du VIH par des acteurs communautaires sans jugement ni discrimination. Khatré, lui aussi homosexuel, travaille pour l'association SOS Père Éducateur.
On bagarre, on supplie la loi, donner à toutes les gens leurs droits pour les santé. Nous, on ne bagarre pas pour liberté, parce qu'on ne peut pas donner liberté l'homosexualité à Mauritanie, République islamique.
Sans le respect des droits humains, il est impossible d'éliminer le VIH, rappelle ONU-SIDA. À Nouakchott et à Olivier, France Inter.
Mettre fin aux inégalités face au sida, c'est l'objectif de l'ONU en cette journée mondiale de lutte contre le virus.
Et celui qui fait peur aujourd'hui, c'est le Covid. Cinquième vague, Florence, la situation s'aggrave en France.
Constat d'Olivier Véran, alors que 47 000 contaminations ont été enregistrées hier, sans doute pas en 24 heures car les chiffres du mardi rattrapent toujours un peu ceux du week-end, mais cela donne une moyenne de 30 000 cas par jour sur une semaine avec plus de 10 000 personnes hospitalisées désormais. Pour faire refluer la vague, les autorités misent tout sur la dose de rappel du vaccin. 7 millions de Français l'ont obtenu, des millions d'autres prennent rendez-vous ou tentent de le faire et c'est le retour des vaccinodromes à Marseille. Olivier Martoc, on pourra se faire vacciner au Palais des Congrès dès 9h ce matin.
Hier soir, les équipes du gymnase Tesser ont dit au revoir à ce lieu désormais trop petit.
Comme vous le savez, nous vous accompagnons dans cette campagne vaccinale depuis le 18 janvier. Nous allons franchir cette semaine les 550 000 injections. Faites du bruit pour eux, ils le méritent.
Médecins, infirmiers, administratifs migrent à 300 mètres dans l'immense hall 3 du Palais des Congrès. En charge de la logistique, Thierry Zaveroni du bataillon des marins-pompiers.
Nous étions à 1000 jours. On a une très très forte demande puisque nous avons déjà 2000 rendez-vous qui sont pris et nous laissons 500 rendez-vous pour ceux et celles qui se prendront spontanément.
Ce qui rend l'opération un peu plus complexe, c'est que désormais il y a plusieurs cas de figure. Cette étudiante de 19 ans est par exemple venue faire une troisième injection alors qu'elle aurait pu attendre encore un mois.
Vu que le Covid il continue de se multiplier, je prends mes gardes quoi.
Côté logistique, des renforts inattendus permettent d'être plus efficaces.
Jean Ristorini, je fais partie de l'amicale des marins-pompiers de Marseille. Et on vient soutenir nos collègues d'Active, on prend un peu tous les postes à la demande, à titre bénévole. Voilà.
Pas d'attente, des procédures simplifiées, tout est fait ici pour inciter les gens à venir se faire vacciner. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Aux Antilles françaises, l'obligation vaccinale des soignants a déjà été repoussée au 31 décembre, mais l'application de la loi pourrait de nouveau être adaptée, concède Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Sa visite en Martinique hier s'est mieux passée qu'en Guadeloupe la veille. Il a pu discuter avec les syndicats et les élus.
Il est 8h07, du polémiste au candidat, Éric Zemmour en plein changement de costume.
Car cette fois, il brigue officiellement la présidence de la République, annonce faite dans une vidéo hier. On y a retrouvé tous ses mantras, sauver la France du grand remplacement, dit-il, et de la violence, retrouver la France d'autrefois. Dans la foulée, Éric Zemmour a donné sa première interview de candidat aux 20h de TF1. Séquence tendue, Olivier et Élodie Forêt.
Éric Zemmour comptait sur cette première interview pour apparaître plus souriant, plus humain, nous confiait quelques heures avant son entourage. Mais sur le plateau du JT, l'ancien journaliste a finalement semblé assez mal à l'aise, obligé sans cesse de se justifier sur sa vidéo de candidature et l'utilisation d'images non autorisées.
Moi, je ne m'occupe pas de ça.
Sur son doigt d'honneur adressé ce week-end à une passante.
C'est un geste, on dira, pas très élégant. Mais en tout cas, qui correspondait bien à l'exaspération de cette folle journée.
Ou encore sur sa vision des femmes, agacé, Éric Zemmour finit par s'emporter.
Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit, on va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis 2 mois.
Sur le fond, Éric Zemmour ne surprend pas, louant Joséphine Baker, panthéonisée hier comme un modèle d'assimilation, ou en appelant les musulmans à renoncer à la pratique de l'islam qui consiste à imposer un code juridique et politique. Sur la campagne, l'ancien journaliste a annoncé avoir récolté entre 250 et 300 parrainages.
Je sais bien que c'est le dernier espoir de mes adversaires. Que je n'ai pas les parrainages.
Rien en revanche sur son entourage. Interrogé sur son futur Premier ministre, Éric Zemmour a botté en touche. Je verrai selon qui m'aura soutenu.
Et en sortant de l'interview, Éric Zemmour s'est emporté contre son intervieweur de TF1, Gilles Boulot, qualifié de procureur de mauvaise foi, alors que devant les autres, il s'efface poliment, humblement, parfois de façon larvaire, a dit le nouveau candidat. Il donnera son premier grand meeting dimanche au Zénith de Paris. Pour eux, les jeux sont en train de se faire. Le vote des adhérents LR pour choisir leur candidat est ouvert depuis 8 heures. Ils devront départager les 5 prétendants qui se sont confrontés lors d'un dernier débat hier soir sur France Inter et sur France 2. Premier tour de scrutin ouvert jusqu'à demain 14h, avant le second vendredi à partir de 8h. Le nom du vainqueur sera donné samedi. 50 ans de lutte contre l'avortement aux États-Unis depuis son autorisation par l'arrêt Roe v. Wade en 1973. Ses opposants n'ont jamais baissé les bras et pensent que leur heure est arrivée avec cette bataille cruciale qui commence aujourd'hui devant la Cour suprême. Le droit à l'avortement bientôt aux oubliettes de l'histoire. C'est le souhait ardent de l'ancien vice-président de Donald Trump, le républicain Mike Pence, cette nuit devant des militants.
Nous demandons sans détour à la Cour de marquer l'histoire. Nous demandons à la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade et de replacer l'inviolabilité de la vie au centre de la loi américaine. Alors que nous sommes ici aujourd'hui, peut-être à l'aube d'une ère où la Cour suprême jettera Roe v. Wade aux oubliettes de l'histoire. Je suis venu parler aujourd'hui du bien et du mal, dire que la vie est un droit humain et appeler la Cour suprême à choisir la vie.
La Cour suprême profondément remaniée par Donald Trump, il y a fait entrer 3 juges anti-avortement. Elle compte donc désormais 6 juges conservateurs sur 9. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour.
Correspondant de France Inter aux États-Unis, Sébastien, ces juges vont se pencher sur la loi du Mississippi sur l'avortement et cela pourrait faire jurisprudence.
Oui, c'est une loi qui a été adoptée il y a 3 ans par cet État du Sud conservateur et elle interdit toute IVG après 15 semaines de grossesse. Pour les défenseurs du droit à l'avortement, c'est contraire au célèbre arrêt Roe contre Wade aux États-Unis qui date de 1973 et qui légalise l'IVG. Les tribunaux fédéraux ont donc déposé des recours pour préserver la jurisprudence Roe versus Wade et l'État du Mississippi a demandé aux 9 juges de la Cour suprême, dont 6 sont conservateurs, le Mississippi a demandé à la plus haute instance juridique du pays, d'annuler tout simplement l'arrêt Roe versus Wade et il est soutenu par une petite vingtaine d'autres États conservateurs qui ont préparé des lois similaires en cas de victoire.
Des États qui sont encore plus mobilisés, Sébastien, depuis la loi votée par le Texas.
Une loi encore plus restrictive, pas d'avortement après 6 semaines de grossesse au Texas, même en cas de viol ou d'inceste, et possibilité, c'est la particularité, possibilité pour n'importe quel Américain de poursuivre tous ceux qui aident les femmes à se faire avorter, médecins, cliniques, mais aussi chauffeurs de taxi ou Uber qui les conduiraient à l'hôpital. Tous ceux qui veulent remettre en cause le droit à l'avortement attendent de voir quelle loi sera éventuellement autorisée par la Cour suprême pour adopter la même réponse attendue au plus tard fin juin prochain.
Sébastien Paoura à Washington pour France Inter, les États-Unis où une nouvelle fusillade a eu lieu hier dans un lycée du Michigan. Un élève de 15 ans a tiré 3 morts et 8 blessés. En France, encore une affaire sortie des archives du crime et peut-être résolue grâce à l'ADN. C'est la mort d'une adolescente de 17 ans, 1994, à Château-Thierry. Hier, un homme a été arrêté en région parisienne. Son ADN, prélevé récemment dans une autre affaire, colle avec celui qui a été retrouvé sur la scène de crime.
Il est 8h12, c'est l'une des usines emblématiques de Renault. Florence, et bientôt elle ne fabriquera plus de voitures.
À Flins, dans les Yvelines, les ouvriers ont déjà commencé à reconditionner des voitures d'occasion. Ils ne feront plus que cela en 2024. Une reconversion inaugurée hier en grande pompe, dans un moment où les voitures neuves n'ont plus la cote. Renault mise sur l'économie circulaire à Flins, en espérant que ce soit rentable. Reportage signé Lauriane Delanoë.
Ici une Dacia, là un Renault Espace. Les voitures d'occasion sont alignées comme sur les chaînes de véhicules neufs. Mais le travail est plus attractif, selon Corentin, l'un des salariés.
On en apprend tous les jours et c'est super intéressant. C'est un nouveau marché, quoi.
Son collègue, El Archi, retrouve, lui, son métier d'origine, mécanicien.
Un pick-up, c'est pas qu'au montage. Tous les jours, t'as fait la même pièce. Mais maintenant, franchement, c'est magnifique.
Il y a aussi un sentiment de fierté pour Laura, 25 ans.
Je trouve ça sympa d'essayer d'améliorer les véhicules. J'étais dans le bâtiment peinture avant et j'avais envie de participer à ce nouveau projet. Si tout va bien, ça devrait s'agrandir, on espère.
La cadence doit doubler d'ici 2 ans et Renault va installer d'autres activités durables à Flins, le recyclage de batteries par exemple. Alors le directeur général de Renault, Luca De Meo, maintient les promesses pour l'emploi.
À la fin de cette décennie, ici il y aura au moins 3000 emplois. On a un programme de reconversion des compétences pour 4000 personnes ici. Donc on se prend la responsabilité, pas seulement en réinventant le business, mais aussi en réinventant les gens. Déjà ils ont du travail pendant quelques temps parce qu'on continue de produire des voitures comme la Zoé qui sont très importantes.
Mais les élus CGT s'inquiètent pour le court terme. La production de voitures neuves, les Zoé, est ralentie à cause de la pandémie. Des intérimaires vont donc perdre leur contrat en janvier.
Renault qui veut voir sortir 45 000 voitures reconditionnées par an de cette usine de Flins à partir de 2023. Et puisqu'on parle transport, savez-vous quel est le jour le plus chargé dans les transports en commun d'Île-de-France? C'est le mardi. Et oui, le mardi, les usagers sont revenus aussi nombreux qu'avant la pandémie, alors qu'on en compte un quart de moins les vendredis. On est beaucoup moins serré les vendredis dans le RER, sans doute grâce au télétravail. Enfin, ce mercredi 1er décembre, on ouvre les calendriers de la pour y trouver du chocolat le plus souvent, mais comme on ne peut pas vous en offrir à la radio, le service culture de la rédaction vous proposera tous les matins une idée de cadeau pour Noël. Petit jingle sympathique pour un super cadeau ce matin, le livre Passeur du journaliste musique Jean-Daniel Beauvallet, 40 ans de carrière passée à explorer la scène britannique, un livre chaudement recommandé par Mathieu Culeron.
Pour tous les passionnés de musique anglo-saxonne, pour tous ceux qui ont frissonné en écoutant la musique venue d'Angleterre dans les années 80-90, ce livre est fait pour vous. Passeur, c'est ainsi que se voit Jean-Daniel Beauvallet, journaliste et fondateur, avec d'autres, du magazine Les Inrecuptibles. Enfant, J.D. Beauvallet habite dans un immense hôpital construit par les Américains en bordure de la ville de Chinon. C'est le fils d'un infirmier qui lui fait découvrir Kraftwerk et David Bowie, et c'est grâce aux pharmaciens du village qu'il découvre Lou Reed, première révélation. Pour l'apprentissage des mots, le jeune Beauvallet s'en remet à Tintin, Jules Verne et au catalogue Manu France. Dans un magasin de disques, il achète un 45 tours d'un jeune groupe, The Smiths. Juste en dessous de ce premier tirage, il y a une adresse, Manchester Portland Street. Le journaliste écrit « Ce n'était pas une invitation au voyage, c'était un ordre ». Une fois sur place, son argent de poche ne lui sert qu'à aller au concert et constater la révolution musicale de ce Manchester de la fin des années 80. Suivront la création des Un Rock avec une bande d'illuminés et les grandes interviews Lou Reed, Björk, Bowie ou encore Portishead. Humble, pudique, personnel et savant, ce livre est à l'image de son auteur. Un ouvrage qui résume à lui seul 40 ans d'épopée rock, mais surtout le parcours d'un homme qui, malgré les années, n'a jamais cessé d'être curieux et passionné.
Passeur de Jean-Daniel Beauvallet aux éditions Braquage. Mmh. Ça coûte 22 euros, c'est un beau cadeau.
Et ça donne envie. Merci beaucoup Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Stéphanie, de nouvelles pluies au programme.
Oui, elles arrivent de mer du Nord, s'étendent à la mi-journée du sud-ouest au Grand Est jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, donnant de la neige en moyenne montagne. Le Nord et le Pas-de-Calais restent placés en vigilance orange en raison des crues. À l'arrière, sur le Nord-Ouest, le ciel est plus variable avec des éclaircies entrecoupées d'averses, alors qu'à l'avant, les régions méditerranéennes profitent encore d'un ciel lumineux. Dans l'après-midi, la vague pluvieuse s'enfonce sur l'Occitanie et le Sud-Est. Elle traverse rapidement le pourtour du golfe du Lion, puis la région PACA, avec un caractère un peu plus marqué sur la Provence. Les pluies se multiplient également sur l'ouest de la Corse et puis sur le reste du pays. Cet après-midi, le régime d'averse se généralise. Le ciel reste chargé, tout ceci s'accompagnant d'un vent à 60-70 km par heure en rafale sur le nord-est, le long des Pyrénées et la plupart des rivages.
Et il fait plus doux.
Tôt ce matin, il reste encore quelques petites gelées aux abords du Massif central, sur Rhône-Alpes jusqu'à l'arrière-pays languedocien et provençal. Mais partout ailleurs, vous vous levez avec 2 à 7 degrés. En journée, les températures remontent pour atteindre 6 à 9 degrés de la Lorraine et de l'Alsace à Rhône-Alpes, 9 à 12 ailleurs. Localement, 14 degrés sur le littoral aquitain et les côtes méditerranéennes. Il fera 6 degrés à Dijon, 10 à Tours, 11 à Paris et 14 à Perpignan.
Merci Stéphanie. France Inter, 8h18, géopolitique.